Comment s'engager politiquement dans cette ère de destruction qui n'a pas connu de semblable ? Voici un entretien que le média de l'écologie Reporter a mis en ligne le 11 janvier 2025 avec Alain Deneau, philosophe québécois et docteur en philosophie de l'Université Paris 8, ancien directeur du Collège international de philosophie à Paris de 2016 à 2022. Alain Deneau enseigne depuis la philosophie et la sociologie au campus de Chipagan de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. La personne qui accueille et interroge Alain Deneau est Hervé Kempf, ancien journaliste du Courrier international de la recherche et du monde, actuel directeur de la rédaction de Reporter depuis 2007. Voici l'entretien mis en ligne et réalisé par Reporter, le plus ancien quotidien d'information français sur l'écologie.
Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
Alain Deneau, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vivons-nous une époque inouïe ?
Je me place dans la position de la citoyenne ou du citoyen qui est soumis à des discours alarmants, catastrophiques, qui sont tenus principalement à titre de référence par des scientifiques du domaine des sciences exactes et qui s'expriment en termes de millions d'années en ce qui concerne la perte de biodiversité, de milliers d'années en ce qui concerne les mutations climatiques. Quant à un sujet humain qui en serait responsable, tout ça n'ayant pas de pareil dans l'histoire. C'est-à-dire que ce discours qu'on reçoit, et qui est proprement angoissant, nous situe historiquement dans une position qui n'a pas de pareil. Du point de vue de la pensée, je m'intéresse au fait que dans une situation comme celle-là, penser devient presque impossible.
Pourquoi ?
Parce que penser, c'est comparer. Je n'apprécie pas particulièrement l'expression « comparaison n'est pas raison ». Au contraire, dès qu'on raisonne, on compare. Les historiens le disent, Paul Venn au premier chef. Comparer, c'est mettre en relation des événements singuliers, mais analogues, et les distinguer les uns des autres pour en percevoir effectivement ce qui fait leur spécificité.
Et là, nous n'avons pas de point de comparaison.
Non, on peut vous dire qu'en Europe, s'il y a un endroit où il faut en parler, c'est ici, parce qu'en Europe, très souvent, on a tendance à rabattre le passé sur le présent et à ne plus voir, au fond, que des éléments identiques. On va voir Hitler en Trump, on va voir la malaria ou la lèpre dans le Covid, et ainsi de suite. Bon, la Deuxième Guerre mondiale dans l'invasion de l'Ukraine, et on ne voit plus la spécificité du présent. Mais là, aujourd'hui, c'est tout autre chose quand on pose la question du climat et la question de la perte de biodiversité et les mutations annonciatrices de crises, de catastrophes, de secousses graves et nombreuses, parce qu'on ne sait pas se rapporter à un précédent pour le penser. Donc c'est inouï, ça n'a pas été oui. Ça n'a pas été entendu, ça n'a pas, c'est inédit, donc, et c'est peut-être même indicible, c'est difficile d'en parler. Et donc, on est dans une situation non pas tant d'éco-anxiété que d'éco-angoisse. Hein.
C'est quoi la différence entre l'anxiété et l'angoisse ?
C'est pas du tout la même chose. Et on peut justement pointer le fait que si on se retrouve avec ce mot d'éco-anxiété aujourd'hui, d'une manière même référentielle, c'est aussi parce que les scientifiques qui produisent les discours appartenant aux humanités, aux sciences sociales, souvent ne relèvent pas de ces disciplines-là. On a aujourd'hui beaucoup, c'est le Sokal et Bricmont, l'affaire Sokal et Bricmont à l'envers, c'est qu'on a beaucoup de chercheurs dans les sciences exactes qui, après avoir produit des données qui sont probantes et pertinentes, se sentent insatisfaits du sens qu'elle génère et outrepasse finalement les frontières disciplinaires pour tout d'un coup leur conférer du sens sur le plan de l'éthique, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la sociologie ou encore de la politique. Et on a aujourd'hui très souvent un discours par exemple de nature psychanalytique qui n'est pas produit par des psychanalystes, mais par des gens qui ont tout d'un coup une conception de l'anxiété qui est très floue, qui est très, au fond, doxale, et qui nous l'impose. Mais au fond, il y a un problème là majeur qu'il faut débrouiller si on veut comprendre dans quelle situation on est. C'est que l'anxiété consiste en une série de pathologies qui concernent le fait de surinvestir un objet. Bon, vous avez peur, par exemple, de rater vos rendez-vous, vous craignez la foule, vous avez de l'anxiété parce que vous craignez quelque chose de spécifique et vous investissez tellement cet objet de peur que vous en êtes déstabilisé, perte de sommeil, perte d'appétit, quoi encore. Bon, il peut y avoir de l'éco-anxiété.
Mmh. Bon, et l'angoisse?
L'angoisse, c'est une émotion qui n'a pas d'objet correspondant. C'est le contraire. Être angoissé, c'est être en quelque sorte envahi par des affects déstabilisants qui ne portent sur rien. Et c'est pire, finalement, que l'anxiété, parce qu'on ne sait même pas à partir de quoi travailler.
Et pourquoi, avec, par exemple, le changement climatique ou l'extinction de la biodiversité, c'est une angoisse?
Mais
il n'y a pas d'objet?
Il y a de l'éco-anxiété lorsque l'inquiétude porte sur quelque chose de précis. Je me mets dans la peau d'un agriculteur qui craint pour ses semences en raison des sécheresses répétées. Bon, là, il y a une anxiété. On craint des problèmes d'ordre météorologique précis. Qui habite sur les côtes peut craindre effectivement de perdre sa maison parce qu'il y a,
des alors que le changement climatique, on n'a pas d'objet, on ne sait pas ce qui va arriver.
La question généralement, des mutations, des transformations, on a dit qu'on a franchi 7 seuils sur 9, qu'au-delà de ces seuils, on ne répond de rien, que la chaîne alimentaire est perturbée, qu'on va perdre 1 million d'espèces, que le climat change tellement que c'est d'une manière relativement autonome qui finit par générer du réchauffement, que le méthane va se libérer de la croûte glaciaire qu'il contient. Alors, dans l'ensemble, lorsqu'on regarde la question dans sa généralité, on ne sait plus à quel saint se vouer. C'est-à-dire que on ne peut se rapporter à rien dans l'histoire de semblable qui nous permette de dire, mais situons-nous par rapport à cette question-là, telle qu'on l'a fait à tel et tel moment dans l'histoire. Et donc, on est finalement face à de l'impensable. Et c'est d'où l'angoisse et d'où le malaise.
Quelles conséquences ça a, alors, de ne pas avoir d'objet sur lequel porter son angoisse?
Le réflexe d'un sujet qui n'est pas particulièrement informé ou pas particulièrement courageux. Bon, on n'a pas l'être en toute situation, nous ne le sommes pas d'ordinaire. Ou pas particulièrement engagé ou investi. Son réflexe, ce sera de se rabattre sur des objets de substitution. J'éprouve de l'angoisse, j'ai un malaise. Cette époque est malaisante, notamment en raison de la question climatique et de l'enjeu de la perte de biodiversité, c'est un sujet incontournable. Et plutôt que de m'attaquer à ce sujet qui est inouï, qui est impensable, qui est sans pareil dans l'histoire et qui ne permet même pas la conversation immédiate avec ses proches, avec ça, on va avoir tendance à chercher un objet de fortune, un objet de substitution, la femme voilée, telle population, une identité sociétale extrême, exacerbée, qui va devenir l'alpha et l'oméga de son existence, ou encore sous la forme d'une hystérie de conversion, des éléments synecdotiques.
Ça veut dire quoi, synecdotique?
C'est quand la partie tient lieu du tout. Et tout d'un coup, parce qu'il y a des politiques visant à faire en sorte que tel filtre soit ajouté à telle usine à tel moment, ou parce qu'on va supprimer les pailles en plastique de telle chaîne de restaurants, on va se dire, on avance, on recycle le plastique. Voilà, donc, peu importe qu'il y ait un continent de plastique là, qui se concentre, on le sait, dans le Pacifique, on va se faire croire, au fond, qu'on avance, qu'on progresse, qu'on agit. Et donc, la partie va valoir pour le tout, ce qui peut aller très loin, parce qu'on est aujourd'hui confronté à toutes sortes d'oxymores, de formules idéologiques qui consistent à nous faire croire que par le développement durable, par la transition énergétique...
En fait, oxymore, ça veut dire quoi?
C'est quand un terme, une expression, a un qualificatif amélioratif qui vient sauver le référent péjoratif.
Développement durable.
Par exemple, le développement a fait l'objet d'énormément de critiques depuis les années 60-70, où il a été vite, surtout en Afrique ou en Amérique du Sud, synonyme de corruption, pollution, destruction, spoliation, expropriation, guerre, ainsi, tout ce que vous pouvez imaginer. Au fond, surmonter ces critiques, on adjective le développement de termes encourageants comme le développement va être social, humain, viable, durable, ainsi de suite. Bon, et donc le développement durable, c'est une façon au fond de confier à l'entreprise, aux multinationales, aux grandes banques, le programme écologique se laisse raconter qu'il se fera sur le plan de grands chantiers industriels autour des voitures électriques, des batteries de pointe, des panneaux photovoltaïques, des tours éoliennes et quoi encore. Donc des grands chantiers que seuls les détenteurs de capitaux peuvent envisager parce qu'elles ont pollué, parce qu'elles ont saccagé, parce qu'elles ont été absolument négligentes en ce qui concerne le vivant et les territoires. Et donc le développement, sans faire toute l'histoire de ce terme, le développement n'est plus l'objet de la critique, mais devient l'objet de la subjectivité. Bon. Et on en a d'autres, hein, dire, le capitalisme vert...
En fait, l'oxymore que vous évoquez, les différents cas, renvoie à une logique synecdotique, j'ai appris un mot, où on va, face à l'immensité d'un problème, on va prendre un élément et on va dire « j'ai réglé cet élément, donc je réponds à l'immensité du problème ». Donc c'est un exemple d'objet de substitution.
Tout à fait.
Mais il y en a d'autres, c'est ce que vous disiez. C'est aussi, par exemple, ça peut être aller dans l'identité, se focaliser sur les femmes où vous allez, peut-être sur les migrants. Est-ce que vous pouvez développer ça ?
C'est-à-dire que dès que d'une manière frénétique, on isole un enjeu social, on le monte en épingle, on jette son dévolu sur lui, on ne pense qu'à lui, on structure sa vie autour de lui, sa vie citoyenne, sa vie politique, sa vie militante, sa vie électorale. Alors qu'à l'évidence, un problème criard, inouï, nous crève les yeux et porte sur le vivant lui-même, sur les conditions de possibilité du vivant, en tous les cas, en ce qui concerne au moins l'espèce humaine, mais aussi 1 million d'espèces, si on en croit l'IPBES, qui est l'organe de recherche soutenu par les gouvernements à l'échelle du monde. Ben, on comprend qu'il y a là, on peut soupçonner qu'il y a là, non pas un problème qui est à 100% justifié par... la tendance qu'ont les gens angoissés à chercher un objet de substitution, mais par le fait qu'un objet jadis marginal, jadis le fait de quelques racistes excités et frustrés, s'offre dans l'espace culturel comme un enjeu pouvant satisfaire un citoyen, une citoyenne, inquiète par quelque chose qui n'a pas de nom. Et donc, le travail des philosophes, des intellectuels, des citoyens tout simplement qui pensent, hein, l'intelligence étant donnée en partage, mais peut-être plus spécifiquement aussi des écrivaines, des écrivains, des artistes, c'est d'élaborer des objets dignes de ce nom, des objets conformes à l'époque.
Parce que ce que vous disiez avant, moi j'avais l'impression que c'est exactement la politique de Marine Le Pen en France et du Rassemblement National, c'est... J'évacue tout ce que vous avez cité, le climat, la biodiversité, et je focalise tout sur les migrants. Leur discours en permanent, quand on entend un député ou une députée du Rassemblement National, quel que soit le sujet, à un moment ou à un autre, ils vont revenir sur les migrants, comme si c'était le seul sujet. Donc là, ils nous ont posé comme objet de substitution le migrant.
Tout comme l'extrême-centre représenté ici par Emmanuel Macron et qui est aussi porteur d'une très grande violence, mais violence, elle, non plus sur un plan ethnique, mais sur un plan social, va éliminer du champ de la visibilité, de la légitimité politique, les pauvres, les écologistes, les militants, les citoyennes et citoyens. Préoccupés par le sort des Gazaouis, ainsi de suite. Il y a comme un certain nombre de thèmes comme ça qui doivent être mis hors jeu et qui disqualifient quiconque s'y intéresse, au point de se faire violenter, de se faire éborgner, de se faire même qualifier de terroriste. Pour dire, bon, donc on est dans une situation, au fond, que ce soit l'extrême-centre ou l'extrême-droite, un discours ne consiste pas à engager la citoyenneté dans un sens pertinent, ce qui est celui de l'histoire, savoir se mesurer à ce défi inouï qui est le bouleversement du climat et la perte de biodiversité. Mais ça consiste à dire au contraire, tout va bien, tout irait bien si il n'y avait pas ces éléments perturbateurs qui nuisent à la santé du corps commun, du corps public. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder par ablation. On va chasser les boucs émissaires qu'on a identifiés depuis des décennies, qui sont des cibles faciles. On va éliminer tous ces excités de la marge, ou qu'on va présenter comme étant de la marge, de manière abusive, parce qu'ils nuisent à la bonne marche des affaires, ils nuisent au fond au discours de l'extrême-centre, là, en l'occurrence, c'est-à-dire un discours extrémiste qui se présente abusivement comme étant centriste, mais qui consiste simplement à qualifier de raisonnable, normal, rationnel, responsable, un programme extrémiste.
En quoi il est extrémiste?
Il détruit, c'est un programme programme qui consiste en fait en quelques points, hein, c'est-à-dire plus de bénéfices pour les multinationales, plus de dividendes pour les actionnaires, minimisation du rôle social de l'État, réduction de l'écologie politique à des logiques de verdissement, toujours plus d'accès aux paradis fiscaux, aux ports francs, aux zones franches.
En fait, de laisser se développer la destruction extrême du monde qui est en train de se faire.
Précarisation du travail, ça c'est le programme d'extrême centre. Donc si vous vous alignez sur ce programme-là, il y a un arsenal de médias intéressés et tendancieux, suffisamment puissants pour distribuer les bonnes étiquettes. Vous devenez raisonnable, responsable, moderne, rationnel, et quoi encore. Et si vous vous éloignez de ce programme-là, selon le degré, là vous devenez complotiste, paranoïaque, furieux, extrémiste, radical, et quoi encore. Et cette distribution d'étiquettes fonctionne très bien. On a vu que Donald Trump a fondé sa politique, sa carrière politique sur ce type de tactique, quoi, en étant soutenu évidemment par des médias complaisants. Donc du coup, l'idée, c'est que si vous êtes dans... C'est à cela qu'on peut repérer finalement un objet substitutif. C'est un objet substitutif, c'est un objet de la réaction. C'est un objet qui permet, au fond, au cadre dans lequel on est, de gagner un peu de temps, de perdurer, d'emprunter du temps, hein, en hypothéquant le vivant, en hypothéquant toujours davantage le territoire, en hypothéquant le climat.
Alors, on comprend bien le raisonnement de l'angoisse, de l'objet de substitution, mais on pourrait dire, par exemple, l'écologie, qui, elle, a conscience de cette situation inouïe dans laquelle nous sommes avec le climat, avec la biodiversité, avec tant de dérèglements de la biosphère. Qu'est-ce qu'il pourrait proposer comme objet? Il en propose ou pas, en fait, l'écologie?
Je vais être indulgent.
Ah.
En disant, néanmoins, il pourra y avoir un accent critique à ce que je dis, mais c'est pas mon intention, que la difficulté de l'écologie politique aujourd'hui est précisément de proposer un objet de pensée. Par objet, on entend quelque chose d'intellectuel. Quand je dis objet, je ne parle pas d'une chaise ou d'une table. J'entends un objet de la pensée, ce sur quoi la pensée porte de façon à motiver l'action. On pourrait aussi dire, à la place d'objet, un dessin, D-E-S-S-E-I-N. C'est-à-dire une idée qui fait avancer, une idée qui fait agir. Bon, et c'est pas quelque chose qui se fait en criant ciseaux. C'est que ça prend du temps. Hein, Rachel Carson indique, dans les années 1960...
Rachel Carson, l'autrice de Le printemps silencieux.
Oui, figure importante du mouvement écologiste qui indique dans les années 60 qu'un insecte doit faire face à 500 nouveaux produits chimiques par an. Ça, c'est dans les années 60. Comment voulez-vous qu'il y ait une adaptation possible? Ben, nous aussi, nous sommes dans ce type de situation analogue. Et nous, sujets humains, sommes confrontés à des mutations techniques, informatiques, culturelles, technologiques, managériales, géopolitiques, qui s'accélèrent à un rythme tel qu'il est impossible pour un cerveau humain de suivre ces réalités-là. On parle d'une finance qui fonctionne désormais en nanosecondes. Mais comment voulez-vous penser ce que même les architectes de ce régime-là n'arrivent pas à suivre? Donc on est dans une sorte de désarroi, d'où l'inouï. Bon, et il nous faut, nous, comme ça, on nous sommes de créer un machin qui va tout d'un coup structurer l'action.
Mais il faut le faire, sinon on va avoir les objets de substitution des extrêmes, centre et de droite,
oui,
là.
C'est ça,
il faut le faire, non?
Donc nous sommes dans une course contre la montre, en même temps que ce que l'époque nous enjoint de faire prend du temps. Donc c'est là la difficulté. Et c'est là où il s'agit d'être indulgent, parce que sinon on peut s'accabler nous-mêmes et c'est vain de le faire. Cela dit, qu'est-ce qui caractérise l'objet qu'il faut apprendre à se donner? Il y en a quelques-uns, je pourrais donner des exemples. Il faut que cet objet-là soit à la fois lucide et gai. Bon, lucide, pourquoi lucide? Parce que s'il n'est pas lucide, on voit bien à un moment donné qu'il n'est pas adapté à la gravité des enjeux, qu'il n'est pas adapté à l'inouï, et du coup qu'il n'est que substitutif. Ça finit par se sentir que le développement durable, sérieusement, c'est pas ça qui va nous sortir du pétrin, demander à une entreprise de mettre un fil de plus ou de verdir un peu sa politique, saccager des mines pour créer un gadget qui va être moins polluant du point de vue de l'émission de CO2 qu'un machin à combustion, mais qui est tellement polluant du point de vue de l'élaboration qu'on revient au même, voire on est dans une situation pire. Bon, donc on voit bien que ça ne marche pas. Elle signe une pétition, machin, tout. Et donc, du coup, on revient à la case angoisse. C'est comme une spirale qu'on y revient avec toujours plus d'acuité. Donc, l'idée, c'est de se donner un objet dont on se dise « Ah oui, là, on tient quelque chose. C'est sérieux. » C'est sérieux dans le sens où on n'a pas froid aux yeux, on se mesure au problème, on n'a pas peur de nommer un chat un chat. Bon, et pour ce faire, il faut d'abord que l'objet ne procède pas de toutes ces expressions qui pourrissent la pensée politique depuis quelques décennies, c'est-à-dire de préfixes privatifs.
Est-ce qu'il y a eu des exemples de tels objets dans le passé, pour qu'on comprenne bien?
Ben non, puisque c'est inouï dans le passé, enfin, oui, dans le passé lointain, mais dans la contemporanéité, puis dans ces dernières années, j'en retiens un à titre d'exemple. Je vais finir par parler de la biorégion, mais j'ai trouvé appréciable.
On y viendra, mais pour l'instant...
J'ai trouvé appréciable comme amorce que Baptiste Morisot, dans ses derniers écrits, parle de la perspective de la chimère. Ah, ça commence à être un objet intéressant, la chimère. Parce que la chimère, qu'est-ce que c'est? C'est la prise en compte de mutations importantes dans l'ordre du vivant, dans le réel climatique, qui forcément entraînera des bouleversements graves, des croisements inattendus. Là où il y avait de l'eau, il y aura de la terre. Là où il y avait de la terre, il y avait de l'eau. L'ours brun... ayant chaud, va monter vers le nord. L'ours blanc, voyant ses banquises fondre et ses territoires inondés, va migrer vers le sud. On va avoir un nouveau croisement, pratiquement une nouvelle espèce. Et là, on s'engage à penser ça. Et sur un plan politique aussi. Et qui est curieux, je ne le connais pas, mais on a des objets communs comme le middle ground, qui est comme l'embryon d'un temps républicain, si je puis dire.
Middle ground.
Oui, au 18e, 17e, 18e siècle, dans la région actuelle des Grands Lacs, en Ontario, puis dans le nord de l'État de New York, là, pour nous situer maintenant, en raison de guerres intenses, des Algonquins, des Eurodescendants, toutes sortes de nations autochtones ont convergé pour créer un espace géopolitique nouveau. Régional.
Qui est ce middle ground?
C'est cet espace-là, c'est le terrain d'entente, si vous voulez, le juste milieu. Je regrette que moi, je propose des traductions en français, mais bon, la référence est souvent citée en anglais. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a des nouveaux objets. Et donc, c'est là que c'est lucide. C'est lucide parce qu'on prend en compte le réel. On n'est pas en train de se raconter des histoires pour gagner du temps ou pour se consoler. Et donc, on assume l'anxiété et on assume surtout l'angoisse. On l'assume, c'est-à-dire qu'on accepte de passer à travers.
Mais dans le passé, vous donnez des exemples dans le livre Faire-que. Hein, vous avez écrit un livre Faire-que qui est très intéressant. Oui. Vous citez des objets dans le passé, par exemple le christianisme au Moyen-Âge, le progrès scientifique au moment des Lumières, le socialisme au moment du 19e siècle. C'est ça, ces objets dont vous parlez.
Oui, c'est ce que j'entends, mais effectivement, l'écologie politique, à mon sens, n'arrive toujours pas à dégager un objet qui soit comparable à ceux-là, qui soit de même nature, au sens où, effectivement, pour toute une série de catégories sociales, au 19e siècle, le socialisme était structurant. Et c'était surtout pas des objets justement négatifs ou privatifs, du genre anti-capitaliste, anti-impérialiste, anti-raciste, décroissantiste, anarchiste, insoumis, et quoi encore. Alors, c'était des termes qui structuraient l'action. Bon, et c'est ce qu'on n'arrive pas à trouver, en fait, c'est-à-dire des pendants, enfin, quelque chose qui joue le même rôle que ces termes-là à l'époque.
Donc, Alain Deneau, je n'ai pas assez dit que vous êtes philosophe, que vous venez du Québec, ou plus exactement, on y reviendra, d'Amérique du Nord au Canada, et que vous publiez aux éditions Luxe « Faire que ». Et d'ailleurs, ok, l'écologie n'a pas cet objet qui nous permettrait d'être un objet de projection, je le retraduis avec mes termes, un objet où on fait face à la situation inouïe du moment pour se mettre dans une démarche où on peut agir collectivement. Et alors, la question traditionnelle, c'est que faire? Et puis vous retournez le truc et vous dites faire que. Et en quoi faire que, dire ainsi faire que, ça va nous aider à aller vers l'élaboration de cet objet qui va nous aider à faire face à l'inouï, voilà.
Une situation d'angoisse, effectivement, lorsqu'on la prend au sérieux, lorsqu'on ne se rabat pas sur le premier objet de substitution venu, lorsqu'on fait preuve d'un minimum de courage, d'engagement, de lucidité, appelle la question « que faire ?» Et on l'entend partout, cette question-là. C'est étonnant à quel point elle fourmille. On n'en est plus à l'époque où un Lénine publie un livre qui est au fond un guide qui nous dit quoi faire d'une manière programmatique avec des directives, des ordres, un embrigadement, un organe, une autorité, un parti, des intellectuels avec un grand I qui nous disent quoi faire et qui vont fédère l'action sur un mode rigoureusement agencé. On n'en est plus là. Néanmoins, vous pouvez plus lire un livre qui ne se conclut pas par la question « que faire ?» d'une manière souvent assez embarrassée. Il y a un nombre, je les collectionne désormais, extraordinaire de livres qui ont pour titre « que faire ?» depuis Lénine, mais même bien avant lui. Babeuf, au moment de la Révolution française, avait écrit un article célèbre qui s'intitulait « Quoi faire ?» en partie. Le titre est un peu plus long. Au 19e siècle, l'écrivain Tchernychevski, en prison, avait imaginé un que faire, lui, sur le plan des mœurs, avec un accent féministe très marqué. Et c'est ce livre-là qui a convaincu Lénine d'intituler de la même manière son ouvrage, lui, beaucoup plus programmatique, structuré, organisationnel, là, sur un plan d'une praxis très fermée.
En 1903.
Au début du 20e siècle. Texte qu'il a très vite, en partie, renié en disant ce genre de texte-là, il avait raison, ce genre de texte-là n'a de pertinence que dans le moment. Pourquoi ? Parce que la réponse qu'on va se donner va nécessairement évoluer. Bon, malheureusement, ça a donné lieu à l'expérience soviétique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la question « que faire ?» dans ces années-là, 19e siècle, début 20e, était roboratrice, galvanisante, exaltante. On est déjà, comme le dit Jean-Luc Nancy un peu plus tard dans un livre qui s'intitulera lui aussi « Que faire ?» parce qu'il y en aura toute une pléthore après. Se demander que faire, c'était déjà faire. C'était déjà être engagé. Et être engagé dans un temps qui, par définition, nous surprend, est imprévisible. Bon. Et donc, que faire ? C'est une question qui annonce un ressort, un élan. Mais malheureusement aussi, ce qu'on constate, c'est qu'au fil des décennies, la question a en quelque sorte perdu de son tonus. C'est-à-dire qu'on la pose beaucoup, même dans les écrits dont je parle tout à l'heure, d'une manière accablée, découragée, presque rhétorique, comme si on attendait la réponse rassurante. Mais il n'y a rien à faire, mon grand, tu vois bien qu'ils sont trop puissants pour nous, ils ont tout, ils ont l'armée, ils ont le capital, ils ont les médias, ils ont le gouvernement, ils ont tout. Bon. Et donc, je dirais qu'on est passé dans l'expression de la question de Lénine à Calimero. Quoi. C'est-à-dire qu'on
Calimero
est, qui était le petit dessin animé du poussin noir qui s'accablait en disant « tout est trop injuste » ou je ne sais quoi. Ou le petit chose de Daudet, quoi, le petit chose. Bon, et donc, on se dit « mais qu'est-ce que je peux faire, moi ?» On est passé de « que faire ?» avec un interrogatif stimulant à ben, « qu'est-ce que je peux faire, moi, petit chose ?» qui est écrasé dans son appartement misérable. Bon, et en même temps, cette question-là a été aussi critiquée comme question, à juste titre, par des gens, justement, comme Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida, Isabelle Stenger, c'est bon, assez différent, aussi Vincent de Victor, mais Bruno Latour qui l'a reprise d'une manière tellement autre que finalement il la déborde. Et, bon, et au fond, ce qu'on a compris, c'est que cette question-là, en même temps qu'elle a été roboratrice, hein, qu'elle est stimulante, elle a été en même temps un frein. Bon, pour deux raisons, c'est quelque chose d'absurde à se demander que faire pendant qu'on fait, parce que ça nous arrête, ça nous inhibe dans le mouvement tandis qu'on s'y trouve. Et d'autre part, ben, y a un problème dans la formule, c'est le statut du « que », qui est un pronom interrogatif qui appelle, au fond, un complément d'objet direct, un objet, mais qui est donné comme ça directement, comme une consigne. Donc, que faire ? Cela. Et faire est appelé à devenir autre chose que le verbe faire, qui est un verbe passe-partout. Et là, je cite le grévisme, je ne veux pas vous faire un cours de grammaire, mais je cite le grévisme. Et l'inversion que je propose de la formule que faire pour faire que a pour vertu, par cette inversion, de modifier le statut du que, qui devient là une conjonction de subordination.
Et on n'est plus dans la prescription que faire la révolution,
non.
Mais faire que, on est dans l'invitation.
Oui,
faire que un monde nouveau advienne.
Oui, c'est une conjonction de subordination qui appelle le mode subjectif, qui est le mode déjà de l'immédiateté. C'est-à-dire qu'on est tout de suite, on est encore dans le mouvement quand on fait que, il n'y a pas point d'interrogation, c'est à la rigueur, on peut mettre un point d'exclamation. On est engagé dans quelque chose qui reste projeté.
Ce que je suis en train de faire contribue à ce vers quoi nous allons aller.
C'est ça, faire que, et le subjonctif est le mode des aspirations. des projections, des espoirs, de l'espérance même, ce qui est encore plus exigeant que l'espoir, parce qu'on ne sait pas exactement tout à fait ce qui est à espérer, c'est on le découvre en même temps qu'on y tend, hein, du courage, de l'aller, du mouvement.
Est-ce que, parce que vous avez confondu subjectif et subjonctif, à moins que ce n'était pas confondu,
non.
Vous les avez employés l'un pour l'autre, en quoi c'est à la fois le subjonctif, donc oui. Vous venez de le dire, mais c'est aussi subjectif, en quoi le faire que est plus utile pour moi en tant que sujet par rapport à ces objets que l'on cherche.
Ce sont deux termes qui ont évidemment les mêmes racines, la même racine étymologique, dans la mesure où, en fait, quand on pose la question « que faire ?», on se situe comme sujet de la question et comme sujet de la réponse. C'est-à-dire que c'est une question qui appelle une réponse qu'on va donner soi-même. Quoi. Bon. Et donc, c'est un sujet autoritaire qui va devenir le parti, l'intellectuel, organique, ainsi de suite, bon, officiel. Bon. Et là, on passe à un autre registre de subjectivation, au sens où « faire que » appelle le concours des subjectivités qui n'est pas celle du sujet qui lance l'appel. Bon. Et donc, dire « faire que », c'est au fond, en appeler à une conjoncture favorable de sujets, et peut-être que le mot est trop fort, parce que j'y inclurais aussi les acteurs non humains. Hein, lui dire les insectes, la faune, la flore, ainsi de suite, tous les éléments qui font que le vivant est possible, que l'économie de la nature s'observe et se perpétue bon an mal an. Bon, donc faire que, c'est penser tout de suite une entrée dans l'action, par rapport à une perspective qui est une aspiration, hein, que l'on pense sur un mode subjonctif et subjectif, à savoir qu'on pense en commun les conditions de possibilité, hein, d'une organisation souhaitable. Et ça peut, et ça se fait dans un certain temps, et ce qu'on peut observer dans la pensée écologiste, c'est cette volonté, au fond, de dégager des objets à la fois lucides et gais, qui suscite du courage, parce qu'il y a comme une forme de joie, hein, qui engage des perspectives qui sont néanmoins lucides et qui se pensent dans un cadre terrible, bon, et qui nécessitent un certain temps. Moi, j'aime bien comment on peut distinguer des Gaïas. Par exemple, il y a la Gaïa de Lovelock, hein, qui est un chercheur qui a cherché une métaphore pour essayer de penser le système Terre comme étant un seul organe, pour essayer de s'expliquer un certain nombre d'hypothèses, là, notamment... en ce qui concerne les océans, on ne va pas rentrer en détail. Bon, mais c'est une hypothèse scientifique qui a donné lieu, hélas, chez Kirkpatrick Sale, par exemple, à un culte.
Chez
Kirkpatrick Sale, qui est un...
Kirkpatrick Sale, ouais, excusez-moi, parce que vous êtes totalement anglophone et moi j'ai un petit temps de retard. Ouais,
mais qui est un penseur, lui, de la biorégion, sur lequel on va revenir peut-être, qui a saisi ce qui était l'objet d'une métaphore, c'est-à-dire le nom de cette déesse, hein, du régime terrestre, là, bon, et de l'organisation de l'ensemble vivant, comme un réel Dieu qu'il s'agit de prier, quoi. Donc, à qui on voue, enfin, ça a été toute une série d'offrandes, quoi. Bon. Et j'apprécie, et chez lui, chez Gaïa, habituellement, on l'écrit G-A-I-T-R-E-M-A-A, chez Bruno Latour aussi, on retrouve cette figure métaphorique, bon, qui soutient la pensée sur un mode hypothétique. On l'aura chez Sale, qui en voue un culte, G-A-E-A, et chez Gilles Vigneault, le conteur québécois, ça sera G-A-Y-A. Et Gaïa, là, c'est plus le nom d'une déesse, d'une divinité supérieure, d'un principe transcendant qui régit le monde, qui le dicte son ordre, qui commande, au fond, une sorte de conformité à des lois. C'est pas ça, Gaïa, c'est le nom d'une petite fille. Une petite fille qui a la barbe de son grand-père, comprend le vivant mieux que lui parce qu'elle y est davantage attachée, ne cherche pas à l'exploiter et croit en cela. Et ce qu'il faut voir dans ces séries de Gaïa, celle de Gilles Vigneault ayant mon suffrage, hein, c'est une Gaïa qui est une sorte de pensée qui est appelée à grandir, à croître, à même le vivant, c'est-à-dire dans l'immanence. Hein, et donc une référence qui nous accompagne tandis qu'on avance parce qu'on cherche à faire en sorte que la vie sur Terre soit encore possible.
Alain Deneau, philosophe qui nous vient du Québec et même de l'Acadie, on va dire un mot de l'Acadie, vous publiez « Faire que », qui est un des ouvrages que j'ai trouvé très stimulant, vraiment galvanisant, selon vos termes. Donc on a parlé de l'objet et du besoin qu'avait l'écologie et la gauche et la force émancipatrice de renouveler, de commencer à dessiner, à avoir un dessin, D-E-2-S-E-I-N. On a aussi vu ce qu'on pouvait faire avec ce faire quoi, à quoi ça nous invitait. Et en fait, vous, personnellement, vous êtes galvanisé depuis quelque temps par une sorte de découverte, si j'ai bien compris, que vous avez faite depuis quelques années, en allant vivre non pas au bout du Québec, mais en Acadie. Vous allez nous dire ce que c'est, où c'est, et surtout en quoi ça vous a fait sentir, comprendre et maintenant agir que les biorégions, c'était quelque chose de passionnant et que ça pouvait peut-être répondre en partie aux questions que nous nous posons. Alors,
mon livre n'a rien d'autobiographique au sens où je ne m'y épanche pas, je ne témoigne pas, mais il reste que on peut se dire entre nous qu'il s'agit quand même d'une trace d'un parcours et donc d'un parcours consistant à traverser l'angoisse, bon, qui a duré quelques années.
Vous avez été angoissé personnellement?
Oui.
Très fortement?
Oui, l'éco-angoisse, au point de quitter les villes, au point de prendre des décisions dans une conjoncture qui me regarde, mais qui était vraiment pesante. Bon, il y a une chose qui m'apparaît toutefois claire, et qu'il faut absolument souligner, j'espère que c'est une évidence, être éco-anxieux, selon les circonstances, ou éco-angoissé, est un signe de santé mentale. Je pense que ce serait une erreur de la part de certains psychologues, peut-être, d'essayer de nous guérir contre l'éco-angoisse ou de nous en faire sortir par le bas en multipliant des objets substitutifs qui nous y maintiennent. Mais il est important de passer à travers dans ce qu'on appelle en sortir. Mais j'aime pas trop l'expression, je vais expliquer en quoi. Mais de passer à travers ce moment-là. Et je ne suis pas le premier à le dire, là. Bon, on est nombreux à l'observer, qui consiste au fond à s'arracher à un ordre idéologique qui nous pourrit le cerveau avec toutes sortes de termes qui nous font agir dans des mauvaises directions et qui font que le problème s'aggrave parce qu'on n'arrive pas à en prendre la mesure. Le fait qu'il est inouï rend la chose encore plus difficile. Bon, l'idée, c'est de passer à travers, de ne pas en faire un trait identitaire du type t-shirt, je suis angoissé, voilà, c'est mon identité, je mets ça sur ma page Facebook et je ne parle que de mes soucis. Il faut passer à travers, qu'est-ce que c'est justement travailler à se donner un objet. Travailler à se donner un objet qui nous stimule, qui nous... Et au fond, un objet, qu'est-ce que c'est sortir de l'angoisse? C'est simplement mobiliser cette énergie-là qui évolue à vide et qui nous perturbe au profit, au service d'un objet qui en vaut la peine.
Retourner cette énergie négative en quelque chose qui nous projette vers...
Oui, c'est comme ça que l'énergie psychique, au fond, se dépense, comme le dit Freud dans sa pensée de l'économie psychique. Ça se dépense en investissant un objet, un mot, un projet, un concept, et puis qui peut s'incarner, évidemment, dans une association, un groupe, un collectif, un journal, un bon... Mais l'idée, c'est de mettre au service d'un dessin. Bon, cette énergie-là, mais il faut le trouver. Et la notion de biorégion, qui n'est pas privative, hein, qui dit quelque chose, qui a une petite histoire déjà, presque 50 ans, est un vecteur vers cette action et cette pensée-là. Et il y a une sorte de coïncidence dans le parcours qui est sous-jacent à ce livre, quoi. C'est d'abord la rencontre avec ce terme-là, qui date de 1975, c'est Allen Van Newkirk, non loin de chez moi, en Nouvelle-Écosse.
Occurred.
Qui a développé cette notion, qui l'a élaborée.
Comment ça s'écrit, ce nom?
Allen Van Newkirk?
Oui.
Ouais, c'est comme la nouvelle église, si vous voulez, en anglais, Newkirk.
D'accord, mais c'est pas une personne, c'est un mouvement.
Non, c'est une personne. Allen Van Newkirk, c'est un situationniste américain qui s'est retrouvé dans l'est du Canada, dans les maritimes, là où se trouvent justement les communautés francophones acadiennes, qui sont une sorte de diaspora, si vous voulez, pour aller vite. Bon, et qui a fondé à Heatherton cette notion et qui a essayé de la mettre en branle, mais cette notion a surtout été reprise en Californie, dans le nord de la Californie, dans une sorte de collectif où il y avait, bon, Nathan Peterberg était la figure la plus connue, laquelle expérience a compté dans le roman Écotopia, bon, qui est peut-être plus connu. Et il y a aujourd'hui, grâce aux amis de la maison d'édition Wild Project, un approfondissement de cette notion qui se fait en France, mais également en Italie. Ça, c'est en gros la cartographie de l'idée. Donc, cette idée-là nous parvient et elle nous permet, au fond, de penser autre chose que de la dénonciation. Bon, mais une action possible. La pensée étant géographique, c'est cette notion-là est survenue dans un processus de dans lequel il s'agissait pour moi de quitter les villes, et donc dans la péninsule acadienne, où là, on a, à mon sens, et c'est ce que j'élabore dans mon université, le campus de Chipagan de l'Université de Moncton, un laboratoire biorégionale. Non pas qu'il y ait des forces vives qui travaillent là d'arrache-pied à créer une nouvelle forme hein, de géopolitique relevant de la biorégion, mais il y a là un potentiel évident de biorégional, une communauté de 50 000 personnes dans une péninsule avec une presqu'île et deux îles qui ont un passé important en ce qui concerne les coopératives, un sens de l'entre-gens, une histoire culturelle très marquée, très spécifique, un tissu social encore relativement fort et un potentiel agricole et un potentiel en ce qui concerne les pêches encore bien tangible. Donc là, il y a quelque chose à penser là.
Mais c'est quoi une biorégion en fait ?
La biorégion, je lui apporte quelques éléments supplémentaires, mais quand on reçoit le concept, c'est l'idée d'un mode de pensée politique qui consiste à intégrer la politique au vivant, au territoire, à ne pas imprimer la politique sur le vivant hein, et sur le territoire, mais à situer la politique dans le vivant, à l'intégrer en filigrane du vivant. Dans une réflexion sur les frontières et sur l'ensemble du territoire, relative à ces dynamiques propres. Comme dit Peter Berg, la biorégion, on la reconnaît en marchant et en observant ces dynamiques intrinsèques. Est-ce qu'il y a un plateau? Est-ce qu'il y a une forêt? Est-ce qu'il y a des montagnes? Est-ce qu'il y a un littoral? Qu'est-ce qu'il y en a des bassins versants? Et la frontière n'est pas névrotique, au sens d'une ligne qu'on trace et voilà, ici ça commence, ça s'arrête. On comprend selon les enjeux qu'elle puisse avoir une certaine plasticité. Si vous vous intéressez au bois de chauffage ou si vous vous intéressez à un four commun, évidemment l'échelle ne sera pas la même. Donc vous avez différentes échelles. Mais il y a un moment où il y a une limite. On sait que entre Lille et Marseille, on va rencontrer comme ça ce qui fait limite. Mais on va penser la limite à même l'organisation du vivant. Et on ne va pas tracer des lignes comme à l'époque coloniale où entre le Togo et le Bénin, tout d'un coup, on décidait qu'il y avait une frontière.
Et l'idée, si je comprends bien, c'est qu'une fois qu'on a reconnu toute cette géographie vivante, ces ressources, pour employer ce vieux terme, la façon dont le territoire vit et quels sont ses équilibres et ses interactions, on va, nous, en tant qu'êtres humains, s'y intégrer et chercher à faire cette politique qui est aussi comment vivre, quel est le mode d'existence, mais faire un mode d'existence qui soit en harmonie, en complémentarité, comment vous diriez ?
Dans l'approche biorégionale, l'expression géopolitique fait sens dans la mesure où le préfixe géo est aussi important que le radical politique. On ne fait pas de la politique sur la géographie, mais dans la géographie, à même le vivant. Et ce que j'ai voulu apporter, moi, dans le livre, c'est l'inscription de la notion de biorégion dans le cours de notre histoire, en la pensant aujourd'hui en fonction des conditions dans lesquelles nous évoluons. C'est pas seulement un projet, c'est pas seulement une utopie, c'est pas seulement un possible qui s'offre, disons, à la carte du restaurant électoral où on se demande ce qu'on va manger pendant 4 ans. C'est pas de cet ordre-là. La biorégion, j'en suis convaincu, sera une réponse à une conjoncture nouvelle qui va s'imposer. Il y a un impératif. Et l'impératif, en quoi consiste-t-il ? En une contraction de la géopolitique, de l'échelle de la mondialisation ultralibérale à celui de la région. Mais cette contraction-là, elle risque de se faire parce que nous n'avons pas la force morale, mentale, intellectuelle, politique de l'administrer nous-mêmes volontairement. Elle risque de s'imposer, cette contraction-là, d'une manière brutale, comme à Valence.
Où là, en Espagne, où il y a eu d'énormes inondations.
Et on se découvre, laissé à nous-mêmes, c'est ce qu'on entend de toutes parts. Vous nous avez abandonnés, vous, pouvoirs centraux, nous qui sommes loin, nous nous découvrons en situation de déréliction, les pouvoirs nous abandonnent, on est laissé à nous-mêmes. Ah, tout ce temps-là, nous étions laissés à nous-mêmes, en fait. Tout ce temps-là, nous n'existions en dernière instance que par rapport à nous. Alors, il faut comprendre le territoire qu'on habite, il faut le chérir parce qu'on en dépend désormais. On ne dépend plus d'un régime de production extrêmement complexe où on nous fait venir des amandes de la Californie puis des raisins d'Afrique du Sud.
Et au passage, pour reprendre cet exemple de Valence en Espagne, peut-être que s'ils avaient eu une conception de biorégion, ils n'auraient pas recouvert de béton et de lotissements et de zones industrielles plein d'endroits où l'eau, du coup, n'a plus pu s'écouler. Ils auraient pris en compte le vivant de la rivière.
Bien sûr, parce qu'ils auraient davantage soigné le lieu qu'ils habitent, parce qu'ils auraient compris à quel point ils en dépendent. Bon, et j'aime beaucoup chez Kirkpatrick Sale, dans ses réflexions sur la biorégion, c'est une des premières références, je dirais, intellectuelles du mouvement biorégional, même s'il y a des pages qui sont vraiment moins bonnes que d'autres dans son œuvre, un moment précieux où il postule qu'il ne peut y avoir d'éthique qu'à l'échelle régionale. Dès lors que vous excédez l'échelle régionale, l'éthique devient un exercice de pure forme. Une série d'édits moraux qui n'ont pas vraiment de portée, qu'il s'agit davantage de contourner, qui invitent à ruser, qui sont un peu hors sol, hein, qui donnent bonne conscience et qui nourrissent le marketing à flux tendu. Alors que si vous êtes dans un espace que vous habitez, dont vous savez dépendre, dans lequel vous cohabitez, dans lequel vous réapprenez à habiter, que vous réhabilitez, Vous savez lié à des gens que vous connaissez, hein, sur qui d'ailleurs vous avez un pouvoir, mais qui ont un pouvoir sur vous, hein, et qui peuvent nous ramener peut-être à des mauvais souvenirs sur une morale étriquée où on organisait les mariages entre familles. Je veux dire, on n'a pas à penser la biorégion sur le mode d'un retour à. Il faut être vraiment insignifiant pour nous ramener l'image des Amish. Bon, donc l'idée, c'est plutôt de penser ce potentiel-là dans son avenir. Oui, par rapport à un passé, parce que le passé ne nous lâche jamais. Et heureusement, nos ancêtres ont pensé des modalités d'action infiniment moins polluantes que celles que nous avons mises en œuvre nous modernes, mais aussi des formes innovantes en ce qui concerne la permaculture, l'architecture, ainsi de suite, des formes innovantes, et aussi l'organisation politique. Le féminisme, par exemple, n'était pas au goût du jour au 18e siècle, donc on ne va pas revenir à l'écoféminisme et le féminisme vont peser dans l'élaboration de la biorégion, autrement que tel que ce n'était pas le cas au 18e siècle. Donc, il n'y a pas de retour à. Il s'agit d'un renouveau où la politique va devoir se vivre comme à Valence, comme à Clova, hein, au Québec, où on a concédé un village aux flammes lors des incendies de forêt il y a maintenant 2 étés. Et tellement d'autres régions qui se sont découvertes à l'occasion de pluies de verglas, d'inondations, de tempêtes, de crises aux États-Unis. Je veux dire, quand vous êtes un afro-descendant et que vous vivez sur un territoire qui est l'objet de crises météorologiques, l'État fédéral vole moins à votre secours que si vous habitez Manhattan. Bon, vous voyez, vous découvrez quoi? Que vous êtes interdépendant quant aux gens qui vous entourent et que vous avez intérêt à chérir le sol que vous habitez, parce qu'en dernière instance, c'est lui qui va vous permettre de tenir. Et on a intérêt à le soigner et à le chérir et à l'aimer, parce que c'est s'aimer soi-même que d'agir de la sorte.
Est-ce que cette approche de la biorégion, c'est pas associé en fait au concept, il n'y a pas besoin de grands mots, à l'autonomie, à l'idée d'autonomie? Qu'on a des communautés autonomes qui ne dépendent pas de l'État, de la mondialisation, de tout.
Il y a une rencontre entre des expériences qui ont compté dans l'histoire. Le mouvement autonome, le socialisme libertaire de type régional, chez Murray Bookchin, le municipalisme libertaire, tout le phénomène du retour à la Terre dans les années 60, les espaces biotiques, ainsi de suite. Il y a toute une série de toute une genèse. On n'invente jamais un concept à partir de rien. Mais le concept de la biorégion est adapté à ce que l'histoire nous apprête à nous faire subir. Nous allons passer un sale quart d'heure universel. Nous allons vivre des moments exigeants. Et il est important qu'une avant-garde soit informée de ces concepts, de cette histoire, soit en mesure de les mobiliser au bon moment. Lorsque la plupart de nos concitoyennes et concitoyens auront l'attention requise pour en entendre parler, c'est-à-dire en situation de crise, de façon que, pour faire en sorte que ce ne soit pas un néo-fascisme de province qui l'emporte. Parce que l'angoisse, la panique, le désarroi sont des terreaux fertiles pour différentes formes, disons, fascistoïdes. Bon, et l'important est de se constituer telle une avant-garde, je vais lâcher le mot, mais une avant-garde de type radicalement nouvelle, qui consiste simplement à être prêt, à être prête lorsque le temps viendra de susciter l'entraide, de susciter le respect, de susciter le soin quant à un espace qui sera celui auquel on se découvre réduit. Et soyons conséquents, si c'est vrai qu'on ne veut pas que l'aliment moyen qui se trouve dans notre assiette ait circulé l'équivalent de 2000 km en moyenne, si on ne veut pas exporter à fort coût écologique des denrées alimentaires des quatre coins de la planète et avoir des fruits de saison 12 mois par année, ben il faudra s'en remettre au sens fort, cette fois, à l'environnement, mais à ce qui nous environne et à ce dont on fait partie.
Eh bien, écoutez, Alain Denot, je vous remercie. On va arrêter là, parce que, en fait, ça nous ouvre beaucoup d'idées. Alors, soyons cette avant-garde. Après, tous les mots ont été prononcés. Merci beaucoup, Alain Denot.
Merci. Merci à vous.
Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/don. Reporter.
Le quotidien d'écologie.
Vous avez écouté Alain Denot, philosophe québécois. Il enseigne la philosophie et la sociologie au campus de Chipagan de l'université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Il est l'auteur de « Faire que l'engagement politique à l'ère de l'inouï » aux éditions Luxe. L'entretien a été mené par Hervé Kempf, actuel directeur de la rédaction de Reporter depuis 2007. Retrouvez cet entretien sur le site reporter.net.